Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Benjamin Duhamel.
Tout juste 8h33 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Olivier Dussopt, ministre du Travail. Bonjour Olivier Dussopt.
Bonjour.
Les renseignements territoriaux promettent pour aujourd'hui une mobilisation historique, hein, c'est leur expression, alors que l'intersyndicale est unie. Un 1er mai pour la première fois depuis 2009. Question simple, est-ce que cela changera quelque chose pour le gouvernement si c'est un raz-de-marée comme l'espère Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce qu'au fond vous dites, bah peu importe, on est déjà passé à autre chose?
Nous verrons ce soir combien de manifestants ont participé à ces mobilisations traditionnelles pour le 1er mai, auxquelles s'ajoute une volonté des organisations syndicales de pousser sur la contestation de la réforme des retraites. Donc nous le verrons ce soir, mais quel que soit le nombre de manifestants, dans une manifestation, il y a toujours des messages. Il peut y avoir des points de désaccord, il peut y avoir des réformes que nous portons qui suscitent de la contestation, mais il y a toujours des messages. Depuis le début de cette mobilisation sociale, nous avons entendu d'autres messages que la seule question des retraites, sur le pouvoir d'achat, sur les conditions de travail, sur le sens qu'on lui en donne au travail dans sa vie.
Et c'est un contexte particulier, vous voyez bien, vous avez réussi à unir l'intersyndicale un 1er mai contre vous, ce n'était pas arrivé depuis plus de 14 ans.
Depuis 2009, oui. Mais ce n'est pas le 1er mai qui suscite cette mobilisation de l'intersyndicale. C'est le fait que depuis maintenant quelques mois, sur la question des retraites, malgré de très longues concertations, malgré des points de convergence sur beaucoup de sujets, il subsiste un désaccord sur la question de l'âge, nous le savons.
Laurent Berger disait hier, il pourrait y avoir des centaines de milliers de personnes. Pourquoi pas 1 million, 1 million et demi? Quelle conclusion est-ce que vous tirerez s'il y a autant de monde?
Les mêmes que pour les manifestations précédentes. C'est-à-dire la nécessité d'entendre, la nécessité d'écouter, la nécessité d'aller au-delà de la seule question des retraites. Je ne sous-estime pas le degré de désaccord sur la question des retraites, mais je sais aussi qu'il y a d'autres sujets qui s'expriment. Lorsque des salariés disent que l'âge de la retraite ou le départ à la retraite est une forme de délivrance, ça signifie qu'ils ne sont pas bien dans leur emploi, ils ne sont pas bien dans leur travail. Et plus que l'âge de la retraite, c'est la question des conditions de travail et du sens au travail.
On va y revenir, un mot encore sur ce 1er mai. Mobilisation historique, les renseignements disent un esprit vengeur. Cela montre aussi que les Français, une fois encore, ne sont pas prêts à passer à autre chose. C'est ce que l'on voit à longueur d'enquête d'opinion, de sondage.
Je ne sais pas s'il y a une volonté de passer à autre chose ou pas. Je fais partie de ceux qui considèrent que la vie politique n'est pas faite de séquences, de périodes qui s'enchaînent les unes avec les autres, comme si la deuxième période signifiait l'oubli de la première. Je pense que cette réforme des retraites est importante, nous l'avons parce qu'elle est nécessaire. Nous avons, avec la Première ministre, tout mis en œuvre pour que l'effort que nous demandons aux Français soit le plus justement réparti. Mais nous savons que c'est un effort qui est demandé. Et donc, nous continuons à expliquer, et nous continuons aussi à ouvrir d'autres chantiers, d'autres dossiers, si je puis dire, et d'autres points sur lesquels nous devons travailler pour améliorer les conditions de travail.
Parmi les pronostics des autorités, il y a aussi une anticipation d'un risque de violence. Et la patronne de la CGT, Sophie Binet, à ce sujet, appelle le gouvernement à ne pas faire, je cite, de provocation policière, comme cela a pu être le cas, a-t-elle dit hier. Est-ce que le gouvernement fait de la provocation policière?
Certainement pas. Et je ne pense pas que ce soit l'objectif de Madame Binet. Mais je pense qu'il faut toujours faire attention quand on parle de possibilités de violence. D'abord, je note et je sais que les organisations syndicales ont toujours...
Et vous craignez ces violences? On en a vu beaucoup les 1er mai en 2018, l'année dernière.
Je note d'abord que depuis le début du mouvement social sur les retraites, les organisations syndicales ont plutôt bien organisé les cortèges, que ça s'est bien passé. Par contre, je dis qu'il faut toujours faire attention à ne pas inverser l'échelle des valeurs. Le problème n'est pas la police. Le problème, ce sont les casseurs, ce sont les violents. Et je ne les confonds pas avec les manifestants, je ne les confonds pas avec ces hommes et ces femmes qui, parce que ce sont leurs convictions, participent à tel ou tel mouvement. Mais ne confondons pas et n'inversons pas l'échelle de valeur entre les casseurs et la police.
Le problème, c'est ce que fait Sophie Binet quand elle parle de provocation policière. Autrement dit, elle a un discours ambigu sur ce risque de violence.
Provocation policière n'est pas la bonne expression, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que Mme Binet puisse inverser l'échelle de valeur entre la police et les casseurs. Je ne le pense pas.
Alors sur le fond, Olivier Dussopt, enfin une bonne nouvelle pour vous, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Laurent Berger a annoncé hier que la CFDT reviendrait à la table des discussions avec le gouvernement s'il y avait une invitation lancée par la Première Ministre, tout en précisant qu'il n'avait pas encore reçu cette invitation. Est-ce que d'abord vous pouvez nous confirmer qu'une telle invitation va bien être lancée dans la semaine pour un dialogue, une rencontre avec les partenaires sociaux?
Il y a quelques semaines, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé à valider la réforme des retraites après que le Parlement l'ait examinée, les organisations syndicales avaient dit qu'elles souhaitaient, pour la plupart d'entre elles, trouver un moment ou un autre les moyens de reprendre le dialogue.
Pas toutes, on va y revenir.
J'ai dit la plupart d'entre elles. Ça ne masque pas les désaccords, mais reprendre le dialogue. Mais la plupart d'entre elles aussi nous avaient dit on a besoin d'un peu de temps et rien avant le 1er mai. Le 1er mai est aujourd'hui. La Première ministre a fait savoir qu'elle souhaitait avoir cette possibilité de discussion, mais nous respectons les temps et je suis très heureux qu'un certain nombre des représentants syndicaux aient déjà dit qu'en cas d'invitation, ils répondraient présents.
Laurent Berger de la CFDT, FTC encore ce matin sur RMC, est-ce que vous pouvez nous dire quand ils pourront recevoir une invitation, quand est-ce que pourrait se tenir une telle réunion à Matignon?
L'invitation leur sera adressée dans les jours qui viennent. Nous ne sommes ni à un jour ni à une heure près.
Mais ça peut être une réunion cette semaine?
Mais ça peut être cette semaine ou début de la semaine
prochaine. Vous avez dit qu'on n'est pas à quelques jours près, mais en même temps vous avez dit dans le Figaro qu'il fallait que ça aille très vite parce que les sujets abordés dans cette négociation ne pouvaient pas attendre.
J'ai dit dans le Figaro qu'un certain nombre de sujets devaient être examinés rapidement, mais entre dire rapidement et un jour près, ce n'est pas moi qui fais l'agenda de la Première ministre. Et je serais très heureux surtout que ces réunions puissent se tenir et que nous puissions avancer.
Et ça pourrait être dès cette semaine?
Ça pourrait être dès cette semaine, début de semaine prochaine. Ça dépendra des disponibilités de chacun et de la volonté des uns et des autres de participer à ces entretiens.
Et pourquoi la Première ministre et pas Emmanuel Macron? On avait cru comprendre que l'idée était aussi de recevoir les syndicats à l'Élysée.
D'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Le président de la République a invité l'ensemble des partenaires sociaux, les organisations professionnelles. On fait le choix de participer à cette rencontre il y a quelques semaines. Il avait indiqué souhaiter, dans les prochaines semaines aussi, organiser une deuxième réunion, avec l'espoir que tout le monde puisse participer, accepte de participer à cette réunion.
Les choses se font. C'était avant le 1er mai qu'il y avait ce délai de décence évoqué notamment par Laurent
Berger. Les choses se font au rythme où elles doivent se faire. Ce qui compte, c'est que nous puissions reprendre un certain nombre de discussions. Et je le répète, ça n'effacera pas le désaccord sur tel ou tel sujet, et les retraites en particulier. Mais il y a des sujets qui sont à l'initiative du gouvernement. Nous souhaitons à la fois travailler sur le meilleur accompagnement possible des allocataires du RSA. Les organisations syndicales et patronales ont conclu de leur côté un accord sur le partage de la valeur qui doit être transposé. Autant le sujet qui, à l'initiative du gouvernement ou des partenaires sociaux, nécessite tout simplement que l'on se parle.
Mais donc, pour être très clair, il y aura une réunion à Matignon, si les syndicats le souhaitent, et vraisemblablement du moins les réformistes le souhaitent, et aussi une réunion à l'Élysée autour du président de la République.
C'est ainsi que c'est prévu, mais je vous l'ai dit, le président de la République et la Première ministre font leur agenda, ce n'est pas moi qui le construis.
Sur le fond, le fait que Laurent Berger dise, voilà, ce délai de décence, il est passé, je suis prêt à rencontrer Elisabeth Borne, c'est quoi? C'est le grand pardon entre la CFDT et le gouvernement après des semaines, des mois de tensions entre les syndicats réformistes et le gouvernement?
J'ai dit à l'instant que si le dialogue reprend, ça n'efface pas la séquence que nous avons connue sur les retraites. Et donc, je ne suis pas dans un vocabulaire de grand pardon, de grande réconciliation. Je pense que l'intérêt général est qu'il y ait un dialogue qui puisse être à nouveau ouvert et noué. Hier, j'ai écouté Laurent Berger qui disait « Nous irons comme une organisation syndicale dans une entreprise va à la rencontre de son employeur, quand bien même ils ont été fâchés, quand bien même les choses ne sont pas bien passées précédemment. » C'est ce qui compte. Et donc, ne donnons pas aux paroles, ne donnons pas à la participation à telle ou telle réunion un sens qui ne serait pas le bon. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un dialogue qui soit ouvert.
Nous considérons... Vous saluez le sens des responsabilités de Laurent Berger?
Bien sûr, comme je l'ai toujours fait, je n'ai pas attendu que nous soyons le 1er mai pour le faire.
D'autres, quand le président de la République expliquait que la CFDT n'avait fait aucune proposition alternative. On n'a pas toujours, Olivier Dussopt, été habitué à des paroles très amènes à l'égard de Laurent Berger de la CFDT.
Oui, il y a quelques réciprocités aussi, mais je pense que ce qui compte, c'est que le dialogue puisse être ouvert. Je l'ai dit, il y a des chantiers qui sont soit d'initiative gouvernementale, soit d'initiative des partenaires sociaux, qui nécessitent que l'on se parle. Et se parler est important pour avoir les meilleurs textes et les meilleures réformes possibles.
En perspective de ces réunions, qu'est-ce que la mobilisation d'aujourd'hui changera? Est-ce que le rapport de force sera différent selon qu'il y a énormément de monde dans la rue ou qu'il y en a un peu moins? Est-ce que vous entendrez le message que vous enverront les manifestants aujourd'hui qui battront le pavé et qui seront sans doute plus que ces derniers 1er mai?
Nous entendons toujours les messages et nous les écoutons. Je ne sais pas combien de personnes seront présentes cet après-midi et j'ai coutume de dire je ne fais pas la météo du climat social
et
vous ne voulez pas que je le répète, voilà, donc je ne le fais pas. Mais il y a une manifestation et dans cette manifestation, il y a des messages. Aujourd'hui, c'est à la fois la journée internationale des droits des travailleurs, c'est la fête du travail, toutes les appellations sont présentes. Le 1er mai a toujours été un moment de revendication pour le monde du travail dans tous ses aspects. Écoutons ce qui se dit. J'ai ouvert au mois de novembre dernier les assises du travail. Avec la volonté de travailler sur des sujets de fond. Quelles sont les nouvelles formes d'emploi? Quelles sont les nouvelles manières d'organiser la démocratie sociale dans l'entreprise dans un moment où le travail se digitalise, le télétravail se développe? Comment est-ce qu'on fait pour que les conditions de travail redeviennent des indicateurs de performance? Les deux garants, Sophie Thiry et Jean-Dominique Senard, m'ont remis un rapport plein de propositions.
On va en parler dans un instant.
Il faut qu'on puisse avancer et construire là-dessus.
Mais restons une seconde sur votre relation avec les syndicats. On l'a dit, Laurent Berger, Cyril Chabanier dessinent plutôt encourageant pour le gouvernement. Du côté de la CGT, c'est beaucoup moins le cas. Sophie Binet dit attendre l'intersyndicale de demain pour savoir si elle se rendra ou non à éventuellement cette invitation. Et elle continue à dire qu'il n'y aura pas de retour à la normale, dit-elle, sans retrait de la réforme. Est-ce que vous espérez, pour le coup, que la CGT vienne, ou vous dites, au fond, on fera sans eux s'ils ne veulent pas venir?
Je l'espère, et la CGT est une grande organisation libre de ses décisions. Mais comme pour toutes les organisations syndicales avec qui nous souhaitons discuter, c'est-à-dire toutes les organisations représentatives, parfois au-delà, selon le format, puisqu'il y en a 5 qui sont considérées comme représentatives par la loi, nous souhaitons toujours que toutes puissent participer.
Et comment est-ce que vous interprétez ces différences de position entre Laurent Berger qui dit on ira et Sophie Binet qui ne semble pas franchement enthousiaste?
Ce n'est pas à moi de commenter les différences de position au sein de l'intersyndical.
Vous pouvez avoir un avis, non?
Ça oui, mais je pense que le respect de leur travail, le respect des responsabilités de chacun implique de ne pas faire de commentaires à l'avance.
Et la présence de la CGT autour de la table, elle est essentielle au dialogue social ou elle est accessoire?
Comme pour chacune des 5 organisations syndicales représentatives, elle est importante.
Donc vous pouvez faire sans elle s'ils ne sont pas autour de la table.
C'est mieux avec.
Laurent Berger dit aussi, avant de parler du RSA, la CFDT ne sera ni dans l'activisme, ni dans le fait d'emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'Emmanuel Macron pourrait retirer sa réforme des retraites. Voilà ce que dit le patron de la CFDT. Vous dites quoi? Il est lucide, peut-être plus lucide que ceux qui continuent à demander le retrait de la réforme.
C'est une déclaration que Laurent Berger a faite hier, je crois, et qui est assez conforme à celle qu'il avait faite dans une interview donnée au Monde il y a quelques jours, lorsqu'il a annoncé la date à laquelle il quittera ses fonctions. C'est très conforme, si je puis me permettre, à la position de la CFDT, une forme de responsabilité, de prise en compte du réel, tout simplement. Mais au-delà de cela, je le répète, ce qui m'importe, c'est que nous puissions rouvrir ce dialogue sur les différents sujets des semaines et des mois qui viennent.
Sur le RSA, Olivier Dussopt, parmi vos futurs chantiers, il y a donc cette volonté de conditionner la perception du revenu de solidarité active à 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine pour les allocataires. On va essayer d'être très concret. Si quelqu'un qui touche le RSA, c'est-à-dire 607 euros et quelques à partir d'aujourd'hui, du 1er mai, si cette personne ne remplit pas ces conditions d'accompagnement, ça veut dire que vous lui coupez les vivres?
Ça veut dire que le président du conseil départemental, parce que c'est le conseil départemental qui est compétent en matière de gestion du RSA, de versement des allocations, pourra plus facilement qu'aujourd'hui suspendre le RSA dans un premier temps et ensuite éventuellement le radier, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque depuis 1988, la loi prévoit la possibilité de supprimer le RSA.
Et donc là, vous facilitez la possibilité de couper le RSA à celui ou celle qui ne remplit pas les conditions que vous souhaitez.
Nous allons l'assouplir et le simplifier, mais la réforme ne s'arrête pas là. S'il s'agissait simplement de faciliter la décision des présidents de département pour suspendre ou supprimer le droit au RSA, ce serait assez injuste comme réforme.
Et selon quelles conditions cet allocataire pourra avoir son RSA?
Je vais au bout du premier point. Je dis, s'il ne s'agit que d'assouplir le régime de sanctions, ça n'est pas très juste. Nous l'accompagnons d'une vraie réforme et d'une vraie modernisation avec les départements de tout ce qui concerne l'insertion et la formation. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les presque 2 millions, 1 million 900 000 allocataires du RSA, l'immense majorité bénéficie d'un suivi social, et c'est très bien. Moins de la moitié bénéficie d'un suivi professionnel. Et donc, il nous faut mettre en place des actions d'insertion, des actions de formation, d'accompagnement sur tous les territoires, adaptées à chacun, pour faciliter le retour à l'emploi. C'est ça l'objectif.
J'entends bien, Olivier Dussopt, j'aimerais rester sur la question des sanctions.
Oui, mais,
selon quelle modalité...
Ce n'est pas qu'assouplir les sanctions.
J'ai bien compris, mais selon quelle modalité, selon vous, un allocataire du RSA pourra se voir couper les vivres? Qu'est-ce qui aboutira à ce que cette décision puisse être prise?
Vous savez, nous n'allons pas inventer le fil à couper le bas. Nous reprenons la loi de 1988 qui a créé le RMI. Dans cette loi de 1988, il y a pour chaque allocataire du RSA et pour la collectivité publique, la puissance publique, un contrat d'engagement réciproque. Ça s'appelle comme ça.
Oui, sauf que vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment appliqué. D'ailleurs, Martin Hirsch le reconnaît lui-même.
C'est le cas. Et donc, notre objectif est d'appliquer strictement ce que le président de la République a dit pendant la campagne. C'était notamment lors de sa grande réunion publique à la Défense Arena. Premièrement, nous sommes dans un pays où lorsque vous n'avez pas de revenus, il existe un revenu de subsistance, un revenu minimum, qui est le RSA, auquel vous avez droit. Deuxièmement, la puissance publique. L'État, mais pas seulement, la sécurité sociale, les départements pour l'insertion, a une obligation, un devoir, qui est de proposer sur tous les territoires une offre d'insertion et de formation qui soit adaptée. Pourquoi je dis adaptée? Parce que vous ne proposez pas à une mère célibataire avec 3 enfants une formation de 17 à 20 heures, ou alors vous lui proposez le droit de garde et la solution de garde qui va avec. Troisièmement...
Et par exemple, cette mère célibataire avec 3 enfants... selon quelles conditions elle pourra, on pourra lui dire, eh bien, vous ne touchez plus le RSA parce que vous ne vous n'avez pas coché ce qu'on attendait de vous.
Si nous proposons collectivement à cette allocataire du RSA seule avec des enfants, des activités d'insertion et de formation adaptées à sa situation, soit en prévoyant des modes de garde, soit en les organisant pendant les temps de scolarité si les enfants sont scolarisés, et que cet allocataire nous dit « je ne veux pas jouer le jeu de l'insertion, je ne veux pas jouer le jeu du retour à l'emploi », nous faciliterons la sanction en termes de suspension.
Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le RSA, qui est le dernier filet de sécurité pour ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, eh bien, plus rien.
C'est le dernier filet de sécurité, mais ça n'a jamais été quelque chose d'unilatéral. Depuis 1988, je le répète.
Sauf qu'on répète, ce n'était pas appliqué. J'ai retrouvé
depuis 1988, c'est avec un contrat d'engagement réciproque.
J'ai retrouvé une phrase de vous en septembre 2022 dans l'Express. Vous disiez « je déteste le procès en assistanat ».
Oui.
Est-ce que ce n'est pas précisément ce que vous faites jouer sur cette idée
au fond
qu'il y aurait des assistés qui bénéficieraient grassement du système pendant d'autres travaillent ?
Certainement pas. Le RSA, c'est un revenu de survie. Personne n'est riche avec le RSA. Personne. Personne ne vit bien avec le RSA. Et je considère que dire « nous devrions verser le RSA sans nous intéresser à la contrepartie », sans nous intéresser au parcours d'insertion, c'est d'une immense hypocrisie. Parce que la société n'est pas quitte de son devoir de solidarité quand elle a versé 607 euros à un individu. Elle est quitte de son devoir de solidarité quand elle l'a aidé à retourner en emploi. Parce que on peut me faire la démonstration par A plus B, mais je n'ai pas trouvé plus efficace, j'ai aussi l'occasion de le dire à la même époque et de le répéter aujourd'hui, je n'ai pas trouvé plus efficace pour sortir de la précarité, pour retrouver de l'autonomie, et donc pour retrouver de la dignité, que d'avoir un emploi et de vivre de son emploi. Et donc, c'est cet objectif. C'est faciliter l'accompagnement vers le retour à l'emploi. Le plein emploi, inaccessible en termes de résultats, et je crois que tout le monde souhaite le plein emploi, inaccessible que si nous arrivons à accompagner les plus éloignés. Et parmi les plus éloignés, il y a les allocataires du RSA. Je le dis parce que c'est un combat qui me tient à cœur. Mais regardez l'étude de la Cour des comptes. La Cour des comptes, en 2022, a publié une étude qui montre qu'en moyenne, 7 ans après une première inscription au RSA, plus de 40% des bénéficiaires du RSA sont encore au RSA.
Olivier Dussopt.
Ça n'est pas acceptable comme résultat, c'est un échec social.
Un mot encore sur le RSA. Marine Le Pen hier, dans les colonnes du Parisien, se dit opposée à cette réforme. Elle la qualifie d'inapplicable, d'escroquerie, je cite, de clin d'œil bien lourd à la droite.
Marine Le Pen ne sait plus où elle habite en la matière. Elle passe justement son temps à faire la chasse aux dépenses sociales, à faire la chasse à tout ce qui fait la solidarité. Et puis, pour je ne sais quelle raison, elle change de pied. Et quand elle dit c'est inapplicable, ça veut dire qu'elle ne fait pas confiance au département. Croyez que cette mesure, on va l'appliquer du jour au lendemain? On va le faire progressivement. Et nous avons commencé à travailler. Il y a 18 conseils départementaux, 18 départements, dans le cadre d'un travail que nous menons avec l'Association des départements de France. 18 qui expérimentent, qui testent, oui, qui
regardent. Vous n'attendez pas le résultat des expérimentations
pour
généraliser ce dispositif.
D'abord, je vous l'ai dit, on va le faire progressivement. Nous avons besoin de changer la loi. Nous allons changer la loi pour une entrée en vigueur en 2024, progressivement aussi, pour faire en sorte que d'ici 3 à 4 ans, la totalité des allocataires du RSA soient bien accompagnés et puissent avoir un accompagnement social, ce qui est nécessaire, mais aussi un accompagnement professionnel. Et derrière l'accompagnement professionnel, c'est l'insertion,
donc
la formation.
Marine Le Pen se trompe. Ça,
oui, comme souvent. Derrière l'accompagnement professionnel, on peut aussi avoir des questions qui sont relatives aux soins, des questions relatives au logement, des questions relatives à la mobilité, parce que tous ces freins à l'emploi sont souvent majeurs dans le parcours de vie des plus fragiles.
D'un mot, Olivier Dussopt, la note de la France a été abaissée par une agence de notation, Fitch, qui souligne le risque que les mouvements sociaux empêchent le gouvernement de continuer à réformer. Ça veut dire que l'argument consistant à dire qu'il fallait faire la réforme des retraites pour apaiser les marchés financiers...
Ah non, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est la démonstration que nous devons continuer à mener des réformes structurelles, à la fois pour rester crédibles sur... la place financière, parce que qu'on le veuille ou non.
Ça n'a pas convaincu cette agence de notation.
D'abord, la notation de cette agence a été commentée par Bruno Le Maire, qui a dit que nous ne partageons pas le caractère pessimiste de certaines de ses hypothèses. Mais l'agence en question dit aussi que ce qu'elle craint, c'est que la durée des mouvements sociaux soit de nature à atténuer les résultats. Nous sommes convaincus à aller au bout de cette réforme, j'ai eu l'occasion de le dire, convaincu en mener d'autres.
Donc vous dites au marché financier, on continuera à faire des réformes difficiles, même s'il y a de la contestation.
Nous l'avons fait depuis 2017, et nous savons trop, depuis maintenant plusieurs années, combien il est coûteux de laisser la poussière sur le tapis, de ne pas nous attaquer au vrai sujet. Cette notation, nous verrons ce que ça donne, parce qu'il y a eu d'autres moments dans notre histoire récente où des changements de notes ne se sont pas traduits par des mouvements sur les marchés financiers. Mais c'est une nouvelle illustration du fait que, même si ça ne nous plaît pas, nous vivons dans un environnement international et le financement de notre État, comme le financement de notre économie, des entreprises, des ménages, dépend des marchés financiers. Ça peut ne pas plaire, Et ça peut être même agaçant pour un grand nombre de nos compatriotes. Mais c'est une réalité dont il faut tenir compte lorsqu'on parle d'économie.
Vous évoquiez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. J'en profite pour une toute dernière question. Son dernier roman, Fugue américaine, a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux, du fait d'un passage érotique particulièrement explicite. Je ne le citerai pas pour ne pas choquer les chastes oreilles des auditeurs ce matin. Est-ce qu'un ministre de l'économie peut écrire cela ?
Un ministre de l'économie peut écrire. Moi, je n'ai pas le talent pour écrire. Je ne sais pas faire ce genre d'exercice, quelle que soit d'ailleurs la nature des mots. Bruno Le Maire a toujours écrit.
Il a toujours écrit. Vous l'avez lu ce passage en l'espèce ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de décalage dans le moment de crise sociale que l'on vit ? On est 1er mai aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes, et là, un ministre de l'économie dont on voit ce passage.
Je pense que c'est aussi une forme de d'humanité. Ça montre que même derrière les costumes de ministres qu'on nous reproche parfois, il y a des sentiments.
Vous l'avez lu,
Oui, je l'ai lu, mais je n'ai pas encore lu le livre. J'ai lu le passage.
Et ce passage, qu'est-ce qui vous inspire ?
Qu'est-ce qui m'inspire ? Il m'a fait sourire. Et voilà.
Bon, on peut pas attendre ça de ministre du Travail dans quelques.
Mais je vous l'ai dit, je n'ai pas le talent pour écrire.
Merci beaucoup, Olivier Dussopt, 8h53 sur RMC et BFM TV.